podcast RFHT.
Madame, monsieur, chers collègues, bonjour. Bienvenue à ce podcast sur la prise en charge du purpura thrombotique thrombocytopénique. Et je suis le docteur Elie Azoulay. Je travaille en médecine intensive et réanimation à l'hôpital Saint-Louis à Paris. Et j'ai le plaisir d'être avec mon collègue Éric Mariotte, aussi praticien hospitalier en médecine intensive et réanimation à l'hôpital Saint-Louis. Tous les deux, nous faisons partie du Centre national de référence des microangiopathies thrombotiques. Et ce podcast a pour objectif de vous informer sur les différentes trajectoires des patients arrivant en réanimation pour un purpura thrombotique thrombocytopénique, on va appeler PTT. Et on sait qu'aujourd'hui en France, près de 3 malades sur 4 vont arriver en réanimation avant d'être pris en charge dans des structures d'aval avec lesquelles d'ailleurs nous travaillons dès la réanimation. Bonjour Éric, la première question est autour de l'arrivée de ces patients en réanimation. On dit que le PTT est une maladie multispécialité. Est-ce qu'on peut avoir une vision globale d'où viennent ces patients et est-ce qu'il y a une différence dans les modalités d'admission et de présentation au diagnostic selon les différentes origines de ces patients avant la réanimation?
Oui, merci beaucoup, Élie. Effectivement, les modes d'arrivée en réanimation de ces patients sont extrêmement variés et sont variés du fait d'une présentation clinique qui peut être extrêmement différente d'un malade à l'autre, et notamment d'un premier symptôme qui peut extrêmement varier. Et donc, cette diversité d'origine, on va l'observer d'une part selon les potentielles maladies, conditions associées au PTT. On pense essentiellement au PTT du péripartum, où là, les malades vont venir d'obstétrique parce que c'est un moment de la vie où on fait beaucoup de microangiopathie thrombotique. Et puis, ça peut, comme je l'ai dit, varier en fonction du premier symptôme. Les patients peuvent venir de la ville, des urgences, parce qu'ils ont des symptômes totalement inspécifiques avec de l'asthénie sur un syndrome anémique, une dyspnée d'effort, un syndrome hémorragique cutané ou muqueux qui est souvent assez peu marqué chez les malades atteints de PTT. Et puis ça peut être une manifestation, un symptôme plus grave qui va les orienter sur une filière spécialisée dans la prise en charge en urgence de ces manifestations. Et donc ça peut être les services d'hématologie et de médecine interne dans le cadre de cytopénie très profonde. Ça peut être les circuits de soins intensifs neurologiques chez des patients qui vont avoir une symptomatologie d'accident ischémique le plus souvent transitoire ou une prise en charge sur des soins intensifs cardiologiques chez des patients qui présenteraient au diagnostic des signes fonctionnels cardiaques d'angor le plus souvent. Et puis, plus rarement, c'est chez les patients qui rechutent, ils peuvent venir directement de chez eux puisqu'ils se connaissent, ils connaissent leurs symptômes, ils ont généralement un suivi et ça nous arrive d'avoir des patients qui arrivent directement de la maison en soins intensifs pour le traitement.
Donc on voit bien un profil plutôt de maladie thrombotique que de maladie hémorragique, avec des défaillances d'organes qui vont être cardiaques, neurologiques ou rénales, et en effet un bilan d'orientation qui va montrer ce syndrome de microangiopathie thrombotique et donc apporter la signature de la maladie. Donc on imagine bien que ces différents symptômes qui amènent les malades à différents endroits vont en fait générer des besoins différents en termes de communication, en termes de formation et en termes de prise en charge initiale. Pour ce qui est de ta spécialité, Éric, donc de la réanimation, qu'est-ce qui fait qu'un malade qui a un PTT a besoin de réanimation dans les premiers jours?
Alors, c'est essentiellement de la surveillance et du soin intensif, de la surveillance continue, puisque ce sont des malades qui, même s'ils ne se présentent pas le plus souvent comme des malades de réanimation avec des défaillances d'organes sévères, on le sait, très à risque d'en développer essentiellement tant qu'ils ne sont pas traités. Et donc l'urgence, c'est de commencer le traitement, parfois sans avoir dans 100% des cas, sans avoir la certitude diagnostique pour ne pas prendre le risque de voir un malade s'aggraver. Donc, seule structure capable d'assurer une prise en charge en urgence de ces patients à toute heure et d'assurer leur surveillance continue pendant les premières heures de traitement qui sont les plus critiques à notre sens, tant qu'ils n'ont pas été traités, eh bien, ce sont les services de soins intensifs et de réanimation. Il y a besoin de cette surveillance et puis il y a besoin encore de traitements spécifiques, hein, que sont les échanges plasmatiques qui, en tout cas avec l'organisation du système de soins que nous avons, n'est pas possible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ailleurs que dans des structures de soins intensifs, surtout quand on doit les commencer en urgence et que ça ne peut pas être planifié. Voilà. Par ailleurs, il y aura besoin d'une surveillance clinique, d'une surveillance biologique, d'examens potentiellement spécialisés comme des échographies, des études cardiaques qui également sont plus faciles à réaliser à toute heure du jour et de la nuit dans des structures de soins intensifs.
Merci. Donc, globalement, la réanimation permet d'accéder à un traitement plus rapide, quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit, et si c'est le week-end ou si c'est un jour de semaine, d'une part. Et d'autre part, la réanimation permet de surveiller ces patients pour qu'ils ne deviennent pas beaucoup plus malades. Mais est-ce qu'il y a des profils de patients qui arrivent en réanimation pour des maladies de réanimation, un état de choc ou un coma? Est-ce que le PTT peut amener les malades avec une grande gravité nécessitant des thérapeutiques de réanimation comme la ventilation mécanique, les traitements vasoactifs ou la dialyse?
Oui, bien sûr, hein. Et c'est essentiellement le cas quand le diagnostic n'a pas été fait immédiatement et que le syndrome de microangiopathie thrombotique a évolué avec une ischémie critique qui peut se développer au niveau de tous les organes. Et donc, ça arrive encore malheureusement quand le diagnostic n'est pas fait rapidement, que les malades, faute de traitement adéquat, s'aggravent et en viennent à devenir de vrais malades de réanimation. On pense essentiellement effectivement à des atteintes neurologiques sévères avec des convulsions, des déficits focaux, des troubles de la conscience, des syndromes coronariens aigus avec parfois des tableaux d'insuffisance cardiaque sur des tableaux d'infarctus du myocarde mal systématisés sur une atteinte microvasculaire. Et puis l'atteinte rénale, elle est fréquente au cours du PTT, elle est rarement sévère, mais il arrive que les malades se présentent par la porte d'entrée d'une insuffisance rénale sévère sur de la nécrose tubulaire ou des facteurs d'agression rénale surajoutés. Et dans ces cas-là, il arrive quand même qu'un certain nombre de patients aient besoin de dialyse à la phase aiguë. Et ça peut être, bien entendu, une façon dont nous sommes amenés à prendre en charge ces patients.
Tout à fait. Donc, en pratique, on voit bien que le traitement le standard du PTT sera discuté dans un autre podcast avec Paul Coppeau et Yigal Benamou, mais on voit bien que parfois, il faut ajouter à ce traitement standardisé des éléments spécifiques à la prise en charge des formes plus sévères, que ce soit pour un soutien cardiaque, éventuellement une prise en charge neurologique ou des choses comme ça. On ne va pas parler de traitement. Une dernière question, Eric, c'est sur donc le flux des patients après la réanimation. Quel est le suivi qui est offert à ces patients? Est-ce que ce sont des patients qui vont être vus en consultation régulièrement? Et du coup, qu'est-ce qui justifie ces consultations régulières, d'une part? Et comment est-ce qu'est organisée la cadence de suivi en consultation à la sortie de l'épisode aigu de PTT?
Le suivi de ces patients en post-aigu, en fait, il va commencer à la fin du traitement d'attaque, entre guillemets, avec les échanges plasmatiques. Après le sevrage en échange plasmatique, ce sont des malades qui vont être suivis très régulièrement. Dans un premier temps, pour vérifier que leur taux d'activité à l'AMSTRES remonte à l'arrêt des échanges plasmatiques. Et il y a des études en cours pour savoir si l'on peut monitorer la durée du traitement par caplacizumab sur l'activité à l'AMTS13. Cette durée de traitement dans l'AMM est d'un mois après la fin des échanges plasmatiques. On essaye de la raccourcir. Et donc, c'est plutôt un suivi hebdomadaire dont on ne sait pas encore s'il est justifié, s'il est efficace. On aura les résultats dans les mois qui viennent, on espère. Et puis après ça, il y aura un suivi en consultation de manière mensuelle, puis tous les 3 mois, puis tous les 6 mois, puis éventuellement tous les ans pendant plusieurs années, en sachant que c'est une maladie qui est susceptible de récidiver tout au long de la vie. Les malades ne sont jamais guéris, et ont toujours, la possibilité de rechuter, même 10 ans, 15 ans après l'épisode initial.
D'accord, donc un suivi rapproché initialement pour la sécurité des traitements, pour leur modalité et leur durée d'administration, pour éventuellement la prise en charge de la maladie sous-jacente au PTT, que ce soit un lupus ou que ce soit une connectivite ou une autre maladie, et puis ensuite un suivi régulier pour ce qui est de l'appréciation des rechutes et éventuellement de monitorer la métalloprotéinase de l'amstrèse qui elle-même peut être prédictive de ces rechutes et d'ajuster le traitement selon comment vont les malades et comment se restaure leur activité à l'amstrèse. Je pense que à ce stade on a vu l'ensemble de la trajectoire des patients, comment ils arrivent en réanimation et comment ils sont suivis au décours. Et nous aurons d'autres podcasts dans cette série qui préciseront à la fois quelle est la nature du traitement, d'une part, et puis d'autre part, comment avant tout est fait le diagnostic de PTT. Ce qui est important, c'est, comme l'a dit Eric, c'est que nous n'attendons aucun élément biologique en urgence pour commencer le traitement. La confirmation du traitement, du diagnostic de PTT se fait d'abord sur des éléments cliniques et ensuite est confirmée par le retour d'une activité à l'amstrèse indosable. Merci beaucoup Eric, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée et merci d'avoir été attentif à ce podcast.
Merci à tous.
Podcast RFHT.